grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comme le disait ce bon vieil Anaxagore, l'homme pense parce qu'il a une main. Trop longtemps déconsidéré, prétendument réservé aux moins bons à l'école, les métiers manuels retrouvent leur grandeur et leur honneur dans un monde hyper connecté où les jobs à la con, sans queue ni tête ni sens, prolifèrent et rendent souvent malheureux. Ébéniste, mécanicienne, cuisinier, céramiste, charpentier, plombier, fleuriste, rémouleur, souffleuse de verre, brasseur, barbière. Des métiers où prime le goût du travail bien fait dans un monde jetable, la patience dans une société pressée et où se mêlent tradition et innovation. Nous verrons pourquoi le travail manuel permet de se reconnecter au monde, de sortir de soi, d'accéder à une forme de sérénité, voire de bonheur quand l'artisan atteint ce que certains psychologues appellent l'état de flow ou de flux en bon français. Pour évoquer les multiples bienfaits du travail manuel, l'ébéniste et traducteur Arthur Lockman, la blogueuse Magali Peruccini qui consacre un beau livre aux nouveaux artisans, la professeure en psychologie Rebecca Shankland et la journaliste à Psychologie Magazine Christina Pelédouel. Et comme tous les mardis, Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Et vous dites-nous ce que vous apporte un métier manuel. Contactez-nous au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
De retour de vos terres bretonnes, que vous inspirent vos choses vues cette semaine?
Eh bien, ça m'a fait penser à la psychiatrie, au métro et à un mot anglais étrange.
À tout à l'heure, vous avez le sens du teasing, mon cher Christophe André. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour à tous nos invités, Arthur Lockman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes traducteur, mais également ébéniste. Charpentier, bien sûr. Vous publiez chez Payot, parce qu'on aura tout à l'heure un témoin qui est ébéniste absolument formidable. J'ai fait la confusion, pardonnez-moi, mais vous travaillez le bois en tout cas. Vous publiez chez Payot un ouvrage passionnant, La vie solide, la charpente comme éthique du fer. Magali Peruccini, vous animez le blog Les mains baladeuses, consacré aux métiers manuels. Et vous publiez chez Erol un beau livre richement illustré, Nouveaux artisans. Portrait d'une génération qui bouscule les codes et qui donne vraiment envie de se reconvertir. Rebecca Shankland, vous êtes maître de conférence en psychologie à l'université Pierre Mendès France de Grenoble et vous êtes spécialisée en psychologie positive. Christina Pelédouel, vous êtes journaliste à Psychologie Magazine. Alors Arthur Lockman, j'aimerais qu'on commence avec vous. Après 5 années d'études supérieures, vous avez suivi un CAP de charpentier. Pourquoi se tourner vers l'artisanat à un moment de votre vie d'étudiant? Vous perdiez pied pendant vos études, en classe prépa, puis à la fac?
En effet, j'étais un peu désorienté à l'issue de 5 années de droit et de philosophie. Et j'ai voulu partir voyager. Je me suis dit qu'apprendre un métier manuel, qui peut se transposer d'un pays à l'autre, c'était la meilleure façon de se donner les moyens de voyager facilement. Et ça m'a été confirmé d'ailleurs par une devise des compagnons allemands qui est « voyager travailler en voyageant ».
Vous écrivez que l'apprentissage d'un métier artisanal vous a donné une boussole pour agir dans la vie.
Mais en effet, l'apprentissage d'un métier manuel ou d'un métier artisanal, c'est l'apprentissage de règles pour bien faire, comme vous le disiez. Les artisans, ou l'artisan, c'est la figure de celui qui soigne son travail. Et pour soigner son travail, on apprend des règles très strictes d'exécution. C'est le fruit même de l'apprentissage.
C'est quoi exactement un charpentier qu'on confond avec un ébéniste, un menuisier? Expliquez-nous un petit peu quel est son travail.
La charpente, c'est les éléments structurels d'un bâtiment. Ça peut être le toit, mais aussi les colombages, ou encore les escaliers, et puis aussi les coques de navires. On parle des charpentiers de marine. Et ça s'oppose à la menuiserie, dont le radical révèle un peu la teneur du travail. Le menuisier s'occupe des menus ouvrages, donc le parquet, les boiseries.
Et l'ébéniste?
Et l'ébéniste s'occupe des ouvrages d'art en bois.
Alors, le psychanalyste Darien Leader nous dit que toucher, c'est être au monde. Pour renouer avec le monde, vous éprouviez le besoin de toucher une matière solide, de la voir se transformer sous l'action de vos mains, de maîtriser les bons gestes.
En fait, ce qui est très frappant et le plus marquant dans l'apprentissage, c'est qu'on sort de soi, comme vous le disiez tout à l'heure. On sort de soi en se confrontant aux résistances de la matière. Je prends un exemple dans mon livre qui est celui des appareils de fitness. Dans lesquels le geste est construit par la machine et tourné vers soi-même. On veut développer un muscle et on produit un geste tourné vers ce muscle. Tandis que quand on travaille sur la matière, on construit son geste vers la matière. Donc on est amené à sortir de soi et à orienter son corps, à organiser son corps en direction de la matière. C'est deux rapports complètement différents au monde.
Vous aviez besoin d'une vie solide, hein, et le titre de votre livre fait référence au célèbre concept de vie liquide, hein, du grand sociologue britannique Zygmunt Bauman.
Effectivement, j'ai profité de ce que la vie s'est liquéfiée aujourd'hui, s'est fragmentée et qu'on peut se reconvertir à tout âge de la vie, puis reprendre des études et ainsi de suite. J'ai profité de la liquéfaction de la vie pour découvrir les charmes de la vie solide.
La vie liquide, c'est cette vie sans phare ni balise.
C'est cette vie qui change tellement vite qu'on n'a plus l'habitude, le temps de former, de développer des habitudes.
Alors Magali Peruccini, vous avez rencontré 25 artisans qui, un jour, ont eu le même type de déclic qu'Arthur Lockman. Des étudiants, des cadres qui se sont reconvertis comme boulangers, céramistes ou mécaniciens moto.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Effectivement, il y a un véritable besoin de revenir à quelque chose de concret. C'est ce que j'entends vraiment le plus souvent. Et un besoin de donner du sens aussi à son activité, qui passe notamment par le fait de se sentir utile et de se confronter à la matière. Et comme on évolue effectivement dans une société très dématérialisée, où on manipule de l'information, on échange des mails, on fait des réunions, on fait des PowerPoints, la plupart d'entre nous rentrent le soir avec un sentiment de vacuité. Et revenir au métier manuel, faire quelque chose de tangible, voir le fruit de son labeur à la fin de la journée. Quand on a fait une table à la fin de sa journée, c'est aussi une preuve d'existence. Et ils avaient vraiment besoin de revenir à ça.
Le philosophe américain et mécanicien moto, hein, Matthew Crawford, l'explique très bien. Il nous dit que l'une des principales sources du mal-être contemporain au travail tient sans doute à l'excès d'abstraction.
Oui, ben on le voit, c'est ce qu'on entend, on vous en avait parlé tout à l'heure, notamment des fameux métiers à la con.
Job à la con.
Théorisé par David Graeber, qui est un anthropologue américain sous le nom de Bullshit Jobs. Et c'est effectivement tous ces métiers où on rentre le soir, on ne sait pas ce qu'on a fait.
Et dans ce monde en pleine transformation digitale, exercer un métier manuel est redevenu prestigieux.
Oui, c'est l'inverse. Alors, il y a une dévalorisation parallèlement à l'entrée dans le digital. Il y a une dévalorisation des bacs plus 5, du statut de cadre. On est tellement nombreux à avoir fait des études et il y a plus trop de métiers derrière, de professions derrière à exercer, qu'il y a une véritable dévalorisation de ces statuts-là. Et au final, on revient aujourd'hui aux métiers manuels qui ont été très longtemps dévalorisés, mais ça date pas d'hier, ça date de Platon, où on a séparé l'esprit et la main.
Arthur Lockman, on assiste à une grande réhabilitation des métiers manuels. Pourtant, pendant longtemps, le travail de la main et celui de l'intelligence n'étaient pas concurrents.
Et non, et d'ailleurs, je m'étonne quand on parle de travail manuel, parce qu'en fait, on utilise tous nos mains aujourd'hui dans tous nos métiers, quand on tape un email, quand on tape un texto. Ce qui est caractéristique du travail artisanal, c'est qu'on utilise l'ensemble de son corps. Quand on apprend, quand on fait un apprentissage, on apprend à remobiliser ses sens, à être à l'attention de l'ensemble des phénomènes qui se produisent autour de nous, et non pas focaliser sur un email ou sur un contenu de sens. Et donc, on n'apprend pas tant à se servir de ses mains que à se servir de l'ensemble de son corps.
Mais vous prenez l'exemple dans votre livre, quand vous vous mettez à scier. Exactement. Vous ne sciez pas seulement avec vos mains, vous sciez avec vos pieds.
En effet.
Expliquez-nous.
Quand on pense se servir d'une scie avec une main, en fait, on constate que pour scier droit, il faut aligner le coude avec l'axe de la scie. Et puis ensuite, on constate que pour aligner le coude avec l'axe de la scie, il faut poser le buste dans une certaine disposition par rapport au coude. Et cette position elle-même du buste, elle vient de ce qu'on a bien planté ses pieds dans le sol. Donc bien scier, ça vient des pieds.
Christine Appelé-Douel, vous avez lu La vie solide d'Arthur Lockman. Et nul besoin d'apprécier le bois ou la charpente pour lire cet essai. Hein.
Ah non, je dirais presque surtout pas. Ça a l'air un peu étrange de dire ça, mais surtout pas, parce que le livre d'Arthur Lockman permet d'entrer de plein pied dans la signification justement du geste et du travail manuel. C'est-à-dire que quand on n'est pas en lien direct soi-même, parce qu'on a une autre occupation avec le travail manuel, on découvre à quel point le travail manuel s'inscrit dans un champ beaucoup plus large. Et surtout, il me semble, dans deux champs particuliers qui sont celui du sens, travailler la matière, c'est ce que faisait Arthur Lockman, c'est donne un sens à ce qu'on est en train de faire, puisqu'il y a une finalité. L'objet, vous parliez de la table tout à l'heure, mais la charpente en est un exemple formidable. Arthur Lockman le dit très bien dans son livre. Couvrir une maison, c'est offrir un refuge aux gens qui vont habiter dans cette maison. Donc il y a une notion de sens absolument fondamentale. Et l'autre notion, c'est celle de l'inscription dans le temps. C'est une idée aussi exactement fondamentale, s'inscrire non plus dans un moment de rapidité, de fluidité dont vous parliez, d'accélération, mais au contraire de ralentissement, puisque le geste demande un certain temps, on ne peut pas l'accélérer.
Je préciserai juste que quand on travaille en charpente, on s'inscrit dans le temps sous deux rapports différents. D'une part, on s'inscrit dans les gestes de ceux qui nous ont précédés. Quand on intervient notamment en rénovation, on reprend le travail des autres et on vient ajouter ses propres gestes à nos prédécesseurs.
Tradition et innovation.
Voilà. Et puis, on inscrit aussi ces gestes dans le temps, dans un long avenir. C'est-à-dire que c'est très rare aujourd'hui les gestes qui sont destinés à perdurer. Et quand on installe une panne faîtière, on l'installe pour les 30, 40, 50 prochaines années.
Christophe André.
Oui, et puisque nous sommes en train de parler de livres et de travail manuel, je voudrais chanter aussi les vertus du livre papier par rapport au livre sur écran. Quand on lit sur papier, on se sert de son corps. Il y a aussi cette notion de pérennité, d'un objet qui vient du passé, qui va rester un peu dans l'avenir. Et puis de l'écriture manuelle, c'est pas du tout pareil d'écrire à la main que d'écrire au clavier. Ça, on le sait parfaitement bien au point de vue des neurosciences. Et vous imaginez que la supériorité de l'écriture manuelle s'exerce sur beaucoup de plans différents.
Alors Arthur Lockman, nous célébrons ce matin le travail des mains, le travail artisanal, mais travailler de ses mains, ça peut être usant, aliénant, abrutissant.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de pratiquer la charpente, en tout cas à temps plein. Il faut une certaine stature pour corpulence pour être charpentier et mon corps n'était pas tout à fait adapté.
Allez, si vous exercez un métier manuel, n'hésitez pas à nous raconter ses bienfaits au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour, avec l'aide de Nicolas Beauve, et c'est réalisé par Claire Destacan. les Doobie Brothers, Long Train Running, toute la jeunesse de Christophe André.
Vous n'allez pas revenir au travail, Emmanuel. Ce que vous disiez, j'étais finement observé.
Grand bien vous fasse.
Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
Sur France Inter.
10h23 et on s'intéresse ce matin aux bienfaits des métiers manuels, de l'artisanat. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000.
Ces apprentis ont tout plaqué pour apprendre la boulangerie biologique au levain dans cette école du sud de la France, au milieu des collines. Mais la boulange, ça se mérite. Il faut trimer, respecter les délais, gérer de grosses commandes dans l'urgence et tenir ses comptes méticuleusement. Pascal, lui, a prévu d'ouvrir sa boulangerie à Boston. Adieu le monde de la finance et ses 200 000 euros par an.
Quand j'ai les mains dans la farine, je suis heureux et j'ai hâte de partager mes produits avec les clients et de voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins et d'avoir cette relation un peu très personnelle avec le consommateur d'un produit que j'aurais fait moi-même.
Cette formation coûte cher, environ 12 000 euros pour 3 mois. Mais en plus de 10 ans d'existence, l'école revendique un bilan flatteur. 80% des anciens ont monté leur entreprise et aucune d'entre elles n'a fermé.
Extrait d'un reportage sur CNews en 2018. Alors Arthur Lockman, je rappelle que vous êtes traducteur, charpentier. On l'entend dans ce reportage, le travail manuel donne du sens. On peut dire que la charpente a donné du sens à votre vie.
La charpente, c'est en plus
elle a donné une ossature.
Travail matériel, effectivement. C'est aussi une histoire de solidarité. Enfin, la charpente elle-même, la ferme, le triangle de base de la charpente, c'est une histoire de solidarité entre des morceaux de bois qui retiennent un toit. Mais la charpente, c'est aussi un travail d'équipe très fort et constant. On ne travaille jamais seul en charpente. Et l'apprentissage de la charpente, c'est l'apprentissage de cette solidarité-là.
Magali Perruccini, ce qui rassemble les 25 artisans que vous avez rencontrés pour votre beau livre, c'est cette quête de sens.
Il y a la quête de sens, effectivement, qui passe à la fois par trouver une activité dans laquelle on se sent bien, qui nous donne du plaisir, mais c'est toujours quand même dirigé vers l'autre pour se sentir utile et pour rendre heureux. C'est Christophe Vasseur, qui était commercial et qui est devenu boulanger, qui dit « je fais un métier formidable, je rends les gens heureux ». Et tous ceux que je rencontre ont les mêmes paroles de rendre les gens heureux tout en exerçant une activité qui leur fait du bien.
Rebecca Shankland, je rappelle que vous êtes maître de conférences en psychologie. Quel regard vous portez sur ces hommes, ces femmes qui ont eu envie de reprendre leur destin en main, en redonnant du sens à leur vie, à leur travail ?
Alors effectivement, ça rejoint vraiment les travaux dans le champ de la psychologie positive qui montrent à la fois l'importance de pouvoir s'engager dans une action qui a du sens, qui correspond à ses valeurs et surtout qui va augmenter le sentiment d'utilité sociale. Donc c'est vraiment ce que vous décrivez et qui est aussi complémentaire, c'est-à-dire dans l'activité manuelle, il n'y a pas seulement cette question du sens qu'on peut avoir aussi dans le travail social ou dans d'autres métiers, mais aussi il y a vraiment cette question de l'inscription dans la réalité. Du contact avec du contact beaucoup plus direct finalement avec le monde au travers des cinq sens qui permet aussi un sentiment de contrôle par rapport à la situation, contrairement à des activités intellectuelles où on a très peu de feedback direct sur l'efficacité de ce qu'on est en train de faire, l'utilité de ce qu'on est en train de faire. Là, on a vraiment de la matière et une action sur cette matière et un sentiment de pouvoir maîtriser ce qu'on fait.
Christophe André, ne plus pouvoir donner de sens à sa vie, à son travail, c'est un grave facteur de troubles psychiques, de mal-être psychologique ?
De troubles psychiques, peut-être pas, mais en tout cas, ce sentiment, effectivement, de se réveiller le matin et de se dire « punaise, je vais refaire le même truc qu'hier, je vois pas très bien à quoi ça sert à part me faire gagner ma vie », c'est une des sources, sans doute, des détresses psychologiques qu'on rencontre. Ça, je ne dirais pas que ça rend forcément malade, mais ça rend tristouné.
Marie-Laure Zonchen, Femme Actuelle.
Oui, je me demandais, Arthur Lockman, et vous aussi, Magali Perruccini, par rapport aux gens que vous avez rencontrés, il y a un mot qu'on n'a pas évoqué, c'est l'enfance. C'est les vocations contrariées, c'est les passions secrètes, c'est tous nos enfants, nous tous, enfants, avons suivi des cours, alors de poterie, on modelait des trucs là pendant une heure ou deux par semaine, et puis stop. On nous a dit, bon, ça c'est bon, maintenant on va passer aux Français, aux choses un peu importantes, mais j'ai l'impression que chacun de ceux que vous avez rencontrés ont en eux ce côté, voilà, j'en rêvais quand j'étais enfant, maintenant je le fais.
Effectivement, il y a une question de la vocation à avorter, parce que quand on a la tête bien faite, entre guillemets, il y a quelques années, on pouvait pas. Enfin, on nous disait de faire des études pour avoir un bon métier, pour avoir un bon salaire. Et puis au final, ce sont des gens qui se sont retrouvés à faire un métier qui n'avait pas de sens, donc ils n'y prenaient pas de plaisir, et qui sont revenus à eux-mêmes et qui ont écouté cette voix en eux qui leur rappelait ce qu'ils avaient véritablement envie de faire. Et il y en a plein, effectivement, qui savaient, depuis qu'ils avaient 10 ans, 15 ans, qu'ils aimaient le contact avec la pâte, qu'ils aimaient le contact avec la terre. Et au final, ils ont fait un détour par un autre métier. Mais personne ne le regrette, parce qu'au final, ils se servent aussi de leur première expérience professionnelle pour le mettre au service de leur nouvelle activité en tant qu'artisan.
Arthur Lockman.
Sur la question de la vocation, je voulais juste apporter mon expérience allemande, c'est-à-dire que en Allemagne, le travail manuel est beaucoup moins dévalorisé qu'en France, il est même au contraire valorisé. Et j'ai rencontré un certain nombre de charpentiers ou d'anciens charpentiers qui avaient pratiqué ce métier par goût, parce que c'était dans un premier temps leur vocation, et qui au fil des années avaient gravi les échelons changé de métier. Et était devenu qui ingénieur, qui architecte, avait évolué dans la pratique de leur métier. Et puis concernant l'enfance, une des réminiscences très fortes quand je fais de la charpente, c'est celle du sentiment de faire des cabanes quand on est un enfant. C'est le même sentiment de l'espace en train de se former.
Je vous comprends. Alors, sur notre page Facebook, nous dit « Réparatrice d'instruments à vent dans la musique depuis bientôt 20 ans, je suis épanouie. Le souci en France est que les métiers manuels ne sont pas encore bien reconnus et ont toujours cette mauvaise image des métiers pour les gens pas doués dans les études. Dans le même sens, David, il serait temps que dans l'éducation nationale, on donne plus de considération aux métiers manuels. Ces filières ne sont pas réservées aux personnes en échec scolaire. » Christy Lapelle-Edouelle.
Oh bah oui, absolument. Il serait temps qu'on redonne en effet ces lettres de noblesse aux métiers artisanaux. Je crois que c'est vraiment important.
Bonjour Walter, bienvenue.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Vous êtes reconverti sur le tard?
Oui, il y a 50 ans.
Ouais. Vous étiez directeur financier dans une très grande entreprise, c'est ça?
C'est ça, j'étais directeur financier dans un grand groupe industriel.
Et vous êtes devenu ébéniste. C'est vous l'ébéniste dont je parlais au début de l'émission. Alors comment s'est fait ce cheminement de la grande entreprise, directeur financier, à l'ébénisterie? Racontez-nous un petit peu.
Alors le cheminement s'est fait de la manière suivante. D'abord, on va remonter en France. J'ai entendu parler d'enfance. Effectivement, j'ai toujours travaillé le bois. En fait, j'avais un grand-père menuisier. On disait de moi que je savais planter les clous avant de faire marcher, ce qui doit être faux, mais c'est l'image qu'on m'a donnée. Et puis après, effectivement, le système scolaire étant ce qu'il est, si on n'est pas trop mauvais en maths, etc., ben en fait, on fait autre chose que du travail manuel. Je me suis retrouvé à faire du contrôle de gestion, puis directeur financier. Et puis, à 50 ans, c'est peut-être un âge un peu particulier, où on se repose des questions, d'une part. Ensuite, l'équation professionnelle stricte d'une OPA un peu agressive, et puis d'une opportunité m'a conduit en fait à quitter ce groupe. Je n'en trouvais plus, ça avait perdu son sens en fait, son sens de tout point de vue. À la fois c'était un groupe extrêmement contrôlant, donc du contrôle, des chiffres, des tableaux dans tous les sens.
Et vous avez intégré l'école Boulle. Vous avez intégré l'école Boulle, la prestigieuse école Boulle.
Alors ensuite, effectivement, j'ai fait 2 ans à l'école Boulle, j'ai fait le grand plongeon. Donc c'est assez drôle l'écart entre l'image qu'on s'en fait et puis la réalité. La réalité, c'est les métiers sont... Il y a un aspect physique qui est compliqué. Quand on passe 10 heures debout devant un établi, les premiers jours, c'est surprenant, en fait. De passer de la station assise toute la journée devant un écran en réunion à la station debout, c'est très fatigant. Mais effectivement, c'était certainement une expérience certainement la plus enrichissante que j'ai eue dans ma carrière, en tout cas en termes d'élèves, avec des enseignants de très haut niveau.
Et vous avez ouvert un atelier à la sortie de l'école?
Oui, en fait, j'ai fait encore un an après en travaillant chez des amis pour d'autres ébénistes pour continuer à apprendre. Mmh. Et puis ensuite, j'ai ouvert mon atelier à Nières. Et depuis maintenant 6 ans, 7 ans, je fais des coffrets, des cabas cigares, des barres de bureau.
Et alors, quel est le conseil que vous avez envie de donner à ceux qui hésitent à se reconvertir, qui ont 40, 50, voire plus, et qui hésitent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
En fait, ça dépend de la reconversion qu'ils souhaitent, et donc des équations personnelles également. Soit c'est une reconversion de type business, c'est-à-dire qu'on veut devenir soi-même entrepreneur, et à la limite, après, là, c'est une question, je dirais, presque d'analyser le marché, la bonne opportunité de rachat ou de création d'entreprise. Mais il y a une autre dimension, c'est si on veut ou peut aller plus vers des nadars, qui est une autre logique en fait, hein, qui de mon point de vue est très différente, et à la fois en termes de revenus sur le futur, mais également en termes de plaisir. Le plaisir de la Snadar, c'est que l'on est amené à créer en fait, et à partager avec les clients une émotion, chose que l'on aurait moins si on est strictement business dans la reconversion.
Merci beaucoup Walter d'avoir témoigné ce matin. Alors Arthur Lockman, vous avez suivi évidemment une formation en charpente à Anglet, hein, dans le Pays Basque. La toute première chose que vous avez dû apprendre, c'est sentir la matière, le bois avec vos mains. Et ça, c'était assez inhabituel évidemment.
Je sortais de 5 ans de travail très scolaire, très monacal. Et en effet, j'avais beaucoup de mal à me servir de mes mains. Je me souviens d'une des remarques, d'ailleurs fait le titre d'un chapitre, une remarque d'un formateur qui un jour est arrivé au début de ma formation pour jeter un œil à mon établi et au petit travail que je venais de faire. Il m'a dit, mais Yon, tu te fais une manucure à la cigoïne.
Et alors, les outils, ça vous découvrez le rôle des outils, évidemment, qui permettent une perception augmentée de la matière. Il y a de belles pages dans votre ouvrage sur le rapport aux outils, de l'artisan avec les outils.
Ce qui est fascinant dans les outils, c'est que c'est à la fois un outil d'action et de perception. C'est-à-dire que avec une scie, on apprend non seulement à réaliser un geste qui est donc scier un morceau de bois, mais aussi à sentir la structure d'un bois. Et quand on scie, quand on a l'habitude de scier différents morceaux de bois, on arrive à percevoir à travers la scie les différences entre les bois. Et en fait, l'outil, au fur et à mesure qu'on apprend à agir et à sentir à travers lui, disparaît du champ de la perception pour laisser la place à la matière.
Magali Peruccini, tous les artisans que vous avez rencontrés pour votre ouvrage ont un rapport charnel et respectueux de l'outil. Qu'il s'agisse du souffleur de verre, du rémouleur, de la céramiste.
Je pense notamment à Morgane, une de ses citations, Morgane qui est tisseuse et qui dit « Mon métier à tisser est le prolongement de mon corps ». Donc ils font vraiment corps à la fois avec l'outil, à la fois avec la matière aussi. Et c'est vraiment tout le corps qui est engagé dans le processus de création, dans l'acte créatif.
Effectivement, il y a le respect de l'outil, mais aussi celui de la matière. J'avais l'habitude, au début, encore une fois, de mon apprentissage, de marcher sans faire gaffe sur le bois. Et un jour, un formateur m'a repris à l'ordre, on ne marche pas sur le bois. Et c'est une forme d'animisme ou de respect, comme ça, pour le travail de la nature qui a mis tant de temps à produire un morceau de bois et qu'il faut respecter en ne marchant pas dessus.
Alors, vous le montrez bien, la charpente, hein, ou tous les métiers artisanaux, c'est un dialogue incessant entre l'œil, la main et le cerveau. Et vous l'écrivez, il s'agit d'une véritable discipline de l'attention.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on travaille sur un texte ou qu'on écoute un cours à l'université, on a une attention focalisée sur le flux de discours. Ça demande d'oublier son corps, d'oublier qu'on est mal assis, qu'il y a du bruit parasite. Quand on arrive dans un atelier, il faut reconfigurer cette attention pour la rendre ouverte à l'ensemble des canaux qui nous apportent de l'information. Ça, c'est une reconfiguration de l'attention, une rééducation de l'attention. Et le meilleur exemple pour figurer ou illustrer cette image, c'est celle de Charlie Chaplin quand il se promène avec une échelle dans l'époque moderne. Les temps modernes. Il est focalisé sur le bout de son échelle et il en oublie l'arrière de l'échelle. Et précisément la reconfiguration de l'attention qu'on apprend dans un apprentissage, c'est apprendre à être attentif à l'ensemble des éléments qui nous entourent.
Christine Pellezuel.
Petite question à Arthur Lockman et à Christophe André. Est-ce qu'on peut dire que cette attention concentrée sur le travail en train de se faire et sur la matière serait une espèce de méditation? Ah, Christophe, je vous lance la balle.
Oui, il y a dans toutes les traditions méditatives des encouragements à être totalement présent à ce qu'on fait. Si vous voulez devenir moine zen, dans les monastères zen, vous allez apprendre à faire la vaisselle, à nettoyer le sol, à jardiner, à ratisser, en étant en pleine conscience, c'est-à-dire avec une attention parfaitement centrée sur l'accomplissement de votre tâche.
Et c'est d'autant l'ouverture quand même à ce qui se passe à côté.
capable de s'ouvrir à l'ensemble de ce que vous êtes en train de faire. Ce qui différencie, je crois, c'est ce que disait Arthur Lockman, les situations de travail manuel du travail intellectuel, c'est que l'univers sensoriel est beaucoup plus riche et beaucoup plus sollicitant. Il y a des sons, il y a des odeurs, il y a cette sensorialité, que ce soit dans le pain, dans la charpente. Et donc, on ne peut pas rentrer dans ce boulot-là avec l'habitude de l'attention hyper-focalisée comme dans le travail intellectuel.
Arthur Lockman.
Oui, effectivement, c'est une formidable extension de l'expérience sensorielle que de découvrir un métier manuel, et notamment à travers les outils.
Magali Percuccini.
Moi, c'est quelque chose que j'entends à chaque interview, à chaque rencontre avec les artisans. Tous me disent que quand ils sont en communion parfaite avec le geste qu'ils sont en train d'accomplir, et que de ce fait-là, tout est mobilisé. Et du coup, il se retrouve quand même en état de méditation. Et c'est vraiment le mot qu'on me dit tout le temps. Et j'allais y venir. Mmh. Effectivement, cet état de flow où on est pleinement concentré à sa tâche et où on se sent bien.
Dans le livre, je prends un exemple du plantage de clous. C'est un phénomène assez répétitif. On peut planter une trentaine, une quarantaine de clous les uns à la suite des autres. Et il y a dans ce rythme que soi-même on instaure une forme de méditation qui se met en place. C'est très différent du rythme qui est imposé par une ligne de production. C'est un rythme qui vient de soi et qui produit un état de transe peut-être, ou en tout cas un état méditatif.
Et vous l'expliquez dans votre livre, la répétition et la pratique sont décisives dans votre métier de charpentier, mais dans l'ensemble de l'artisanat. Ça, c'est essentiel.
Je crois que la répétition est décisive pour acquérir une forme d'intuition de la matière. Ce qui est assez frappant, et encore une fois dans mon apprentissage c'était particulièrement marquant, c'est qu'en arrivant de l'université on pense qu'il faut simplement analyser les choses pour bien les faire. En fait, quand on se confronte à la matière, on constate qu'il faut intérioriser ou développer une intuition de la matière pour réussir à agir sur elle, à la comprendre. Et ça passe par la répétition des gestes.
Allez, il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Les choses vues de Christophe André.
Alors, en tant que psychiatre, j'ai longtemps cru que je faisais un métier d'intellectuel. Imaginez, un médecin qui ne touche presque jamais ses patients, sauf quand il leur serre la main pour les saluer ou quand il leur tape amicalement sur l'épaule pour les réconforter. De temps en temps, il prend la tension artérielle, il fait un petit examen neurologique. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un travail manuel. Eh bien, comme souvent, avec mes grands avis sur la vie, j'avais tort. Psychiatre, ce n'est peut-être pas un travail manuel, mais ça n'est pas vraiment non plus un pur travail intellectuel. Plutôt, un boulot d'artisan, de bricoleur, au plus noble sens du terme, je rassure tout de même nos patients. De tout son cœur et avec toute sa science, on fait de son mieux avec le réel et avec les moyens du bord. Comme les artisans, comme les paysans, comme tous les soignants, on est en contact avec la matière plus qu'avec les idées. Le réel nous résiste parfois, mais c'est toujours lui qui gagne à la fin. Le paysan n'est jamais plus fort ni plus malin que la terre qu'il cultive. L'artisan n'est jamais plus fort ni plus malin que la matière qu'il façonne. Le soignant n'est jamais plus fort ni plus malin que les humains dont il a la charge. S'il n'y a pas humilité et respect, tout ça ne marche pas. Il n'y a que les philosophes et les idéologues, les techniciens et les polytechniciens qui peuvent faire les malins et spéculer sans craindre le retour du réel, mais sans espoir non plus de beaucoup le modifier. Comme le notait un philosophe, justement, Alain, la matière est sourde aux prières, mais fidèle aux mains. Inutile d'implorer le réel pour le transformer, il faut l'empoigner, mais avec intelligence. C'est pour cela que rien n'est plus triste que le dévoiement du très respectable et très antique travail manuel, sa mise en esclavage sous la forme du si bien nommé « travail à la chaîne ».
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous.
Alors Gainsbourg chantait ça en 1959, l'époque où le travail à la chaîne était sans doute à son apogée. Depuis, Le monde a bien changé. Les robots nous remplacent pour tous ces boulots répétitifs et le travail manuel reprend peu à peu son lustre et son prestige. Les études scientifiques chantent ses vertus. Il est bon pour nos émotions. Faire de ses mains diminue notre stress et nous donne du plaisir. Il nous offre des bouffées de réel par rapport au virtuel des écrans qui nous absorbe de plus en plus. Il nous met en position d'agir au lieu de subir, de construire au lieu de consommer. Et du coup, il devient à la mode. Voyez la vogue du DIY. DIY, ce sont les initiales de Do It Yourself. On pourrait dire en français le FLTM, fais-le toi-même. Eh bien, cette mode du DIY ou du FLTM, comme vous voulez, permet que ceux qui étaient hier corvés pour la survie, faire pousser sa nourriture, fabriquer les objets de son quotidien, devient loisir gratifiant sous forme de jardinage ou de bricolage. Plus le virtuel, le digital, les écrans envahissent nos vies et nos quotidiens, plus nos cerveaux et nos corps réclament du réel, du concret, du manuel. C'est exactement ce qui s'est passé pour le sport. Plus nous sommes devenus sédentaires, plus nous avons compris qu'il fallait compenser et bouger par une activité physique de loisir. Et face aux grands monstres digitaux tapis dans l'ombre, face à la horde des écrans, les cerveaux de demain seront manuels ou ne seront plus. Et vous, chère Ali, comment ça se passe chez vous le week-end avec vos mains? Ça bricole, ça jardine, ça cuisine ou ça fait de la charpente?
Avec mes mains, ça boulange, ça cuisine.
Ah, bravo.
Voilà. Merci beaucoup les choses vues de Christophe André. Avoir en vidéo sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse et sur le site de France Inter. Dans quelques instants, nous verrons ce qu'il se passe dans nos têtes quand on pratique un métier manuel qui nous satisfait. 01 45 24 7000 pour tous vos témoignages.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous, vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but, au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, que tout petit tellement je suis un grand petit con.
Un grand petit con.
C'est pas ce que je veux, c'est pas ma vie, j'ai pas envie. Est-ce que je suis ce vieux gris?
Interprété grand petit con. Pourquoi vous me regardez comme ça, Christophe André?
Je ne sais pas.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h48, on s'intéresse ce matin aux bienfaits des métiers manuels, de l'artisanat. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000.
Elle est devenue bouchère à 30 ans. Lui a choisi le métier de menuisier à 50 ans. Deux parcours bien différents, mais deux reconversions dans le travail manuel après des études supérieures. Pour Clotilde, responsable d'un magasin de sport avant un licenciement économique, le choix s'est imposé presque naturellement.
J'avais une grand-mère qui avait une charcuterie-boucherie. J'avais vu mon grand-père faire du pâté, aller à l'abattoir, etc. Ça ne me dérangeait pas du tout.
Toucher la matière, transformer un produit de la nature, c'était aussi le souhait de toujours de ce quinquagénaire, fier désormais de montrer quelques-unes de ses créations de meubles en frêne aux formes très épurées.
Voilà, donc on a les quatre pièces qui se mettent les unes dans les autres.
Christophe vient du monde du pétrole. Pendant près de 30 ans, il a connu beaucoup de postes de responsabilité bien rémunérés. Mais ce fils d'agriculteur aimait aussi le dimanche travailler le bois, apprenant en autodidacte jusqu'à choisir de quitter l'industrie sans regret il y a 4 ans. Aujourd'hui, il laisse libre cours à son imagination.
La plus grande des satisfactions, c'est quand vous amenez un objet, que ce soit un meuble ou un objet comme celui-là, chez un client, et qu'il vous dit « Monsieur Guilloise, c'est plus joli que ce que j'ai commandé ».
Menuisier ou boucher ont au moins un point commun, avoir le sentiment gratifiant d'agir dans le concret et de voir chaque jour le résultat de leur travail.
Reportage de Denis Cadeau dans le JT de TF1 en mars 2018. Alors on a une question tiens, de Sophie sur notre page Facebook, c'est pour vous Magali Perrucchini, vous publiez l'ouvrage « Nouveaux artisans ». En écoutant votre émission, je me rends compte que beaucoup de reconvertis qui ont la chance de pouvoir passer l'étape de la formation sont issus de milieux aisés, traders, directeurs financiers ou issus d'un foyer aisé leur permettant de franchir le pas. Les formations sont extrêmement chères et ce n'est pas réservé à tout le monde.
Effectivement, la plupart des gens que j'ai rencontrés sont des anciens directeurs marketing, des anciens banquiers, des anciens gestionnaires, des anciens communicants. Et c'est vrai que comme pour tout parcours d'entrepreneur, il faut aussi avoir un petit pécule de côté.
Le capital social, culturel, économique.
Etc. Et puis, c'est toujours plus facile quand on a un mari, une femme qui peut nous soutenir, ou des parents, ou un pécule de côté.
Facile à appeler les doigts.
Ça paraît tellement évident, et c'est vraiment regrettable. On aurait envie que ça puisse s'ouvrir à davantage de catégories de personnes qui auraient envie et besoin de renouer avec un métier artisanal.
Alors c'est vrai que c'est quand même un phénomène de niche, mais par contre ça permet quand même de revaloriser l'artisanat, de faire évoluer les mentalités pour qu'ensuite ça infuse dans la société et que les jeunes, la future génération aient davantage envie de se lancer dans les métiers manuels, en espérant aussi qu'ils soient soutenus par les professeurs et par les parents.
Pour le plaisir, je vais citer quelques métiers d'artisanat hein, qui sont issus de votre livre. Teinturière végétale, peintre en lettres, marbreuse de papier, modeleuse, savonnière, forgeron coutelier, dominotier, torréfacteur, rémouleur, céramiste, orfèvre, brasseur, plumassier, plombier, barbière, typographe, boulanger.
Ça fait rêver, hein.
Ça fait rêver, hein. Et vous êtes devenu donc charpentier, Arthur Lockman. Quels sont les bénéfices psychiques de cette confrontation au réel? Vous prenez l'exemple de l'hypernarcissisme dans votre livre La vie solide. Si j'ai de fortes tendances à l'hypernarcissisme, ça permet quoi l'artisanat et la charpente en particulier?
Je ne sais pas si c'est la charpente en particulier, c'est la confrontation à la matière en général. Le narcissisme, c'est entre autres choses, le sentiment de toute-puissance sur le réel et le sentiment que le réel dépend de nous. Or, la confrontation à la matière, c'est justement la confrontation à l'autonomie des objets, à ce qu'elle nous résiste. Et tout le mouvement d'apprentissage, toute la trajectoire de l'apprentissage, c'est la confrontation à la résistance et l'adaptation à cette autonomie des objets.
Magali Perrucchini.
Oui, on peut citer aussi Pia, que j'ai rencontrée dans le cadre du livre, qui est céramiste et qui dit que son savoir-faire lui enseigne la patience, la persévérance et l'humilité. Parce que les artisans ont un maître au-dessus d'eux, qui est la matière.
Et Faustine nous dit sur notre page Facebook, mon métier de céramiste m'apporte tranquillité, patience, confiance, réconfort. J'y vois une ouverture à la poésie. Le contact avec la matière me fait vivre des émotions uniques. Rebecca Shankland, vous êtes maître de conférences en psychologie. Pouvez-vous nous dire pourquoi le travail manuel, l'artisanat, nous met dans ce que certains psychologues appellent l'état de flow, en français de flux? Expliquez-nous un petit peu.
Oui, effectivement, plusieurs d'entre vous ont évoqué ce terme tout à l'heure et Arthur en parle aussi dans son livre. Il dit « J'aime l'attention totale que ce métier impose à chaque moment ». Il parle aussi du moment, d'instant de flow d'équipe, où il parle d'une symbiose au sein de l'équipe.
De moments de grâce.
Il y a effectivement des travaux au niveau de la psychologie qui ont porté sur cet état de flow qui consiste en une absorption totale de l'individu dans la tâche, qui se caractérise vraiment par un engagement de toute la personne, une concentration très intense, avec la perte de notion du temps et une sensation de fluidité dans les gestes qui coulent de source, un sentiment de de maîtrise de la situation, alors surtout de ses propres gestes, effectivement, puisque la matière a sa propre autonomie. Et ce que montrent les recherches, en fait, c'est surtout Csikszentmihalyi, donc qui est un chercheur très productif, qui a publié plus de 150 articles, qui montre à quel point cet état dans lequel on peut rentrer, d'intensité, d'absorption totale, permet en fait de générer alors au niveau du cerveau un certain nombre d'hormones dont la dopamine, la sérotonine, les endorphines qui vont générer des émotions positives qui vont aussi permettre plus de créativité, une capacité d'adaptation à la situation. On est capable d'une meilleure rétention d'informations, d'une plus grande vitesse de traitement de l'information et ça va générer un certain nombre d'effets bénéfiques pour la personne, alors à la fois en termes de performance et de performance d'équipe lorsqu'il y a un flot d'équipe, mais aussi des effets positifs pour la personne au niveau de l'estime de soi, du sentiment d'accomplissement, du sentiment d'utilité et de satisfaction par rapport à la vie. Et par ailleurs, ce qui explique aussi les effets sur le bien-être de manière durable, c'est ce dont vous venez de parler, finalement, la capacité à se décentrer par rapport à soi, à ses préoccupations, à son nombril, qui vont favoriser une diminution de l'anxiété, du stress, donc qui explique aussi les effets de ce travail manuel sur le bien-être.
Pour résumer ce que vous venez de dire, je cite Mihaly Csikszentmihalyi, pour entrer dans le flow, il faut se situer entre l'état d'excitation et de contrôle. La tâche entreprise est un défi, elle est réalisable, mais demande une concentration profonde. On s'implique complètement sans percevoir l'effort. Les heures deviennent des minutes, on a le sentiment de contrôler pleinement son action et d'en être totalement responsable. Christophe André.
Oui, ah, ça c'est quand ça marche bien. Oui. Moi je me souviens les fois où j'essaie de bricoler, de jardiner, il y a quand même deux conditions dans le flow. Il faut que la tâche soit intéressante et du sens et il faut qu'on la maîtrise. Ouais. Sinon, on est dans le stress si on ne maîtrise pas ou dans l'ennui si c'est casse-pied.
Marie-Laure Zonshein.
Oui, je m'interrogeais, est-ce que vous avez une espèce de petite période de blues ou de post-dépression, alors vraiment je mets des très très gros guillemets, une fois que c'est achevé, est-ce que vous passez à autre chose facilement ou est-ce que vous restez comme ça en vous disant j'ai fini? Oui, mais j'ai fini en même temps.
Très bonne question, Arthur Lockman.
Moment de blues, peut-être pas, moment de fatigue, parce que les moments d'intensité les plus forts sont ceux qui se trouvent à peu près au milieu du chantier, c'est-à-dire qu'on a lever les pièces maîtresses de la charpente et ensuite vient le travail de finition qui est très long, très laborieux et dont l'effet ou l'avancement est beaucoup moins visible. Mais juste pour revenir sur l'état de flow, mes plus beaux souvenirs que j'essaie de décrire dans le livre, c'est ceux où l'intelligence collective du travail à effectuer est tellement forte au sein d'une équipe qu'on peut passer une après-midi entière sans se parler, sans échanger un mot, en anticipant les gestes des autres et sans avoir besoin de parler.
Bonjour Audrey, vous êtes potière et vous avez fait une reconversion.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, je suis potière et j'en suis un peu passée par toutes les étapes dont vous avez parlé. J'ai commencé en MJC quand j'étais petite, vers 7-8 ans. Et j'en ai pas fait mon métier dans un premier temps. J'ai été éducatrice longtemps auprès d'enfants avec qui je faisais de la poterie. Et puis vers la trentaine, j'ai fait la reconversion pour ouvrir un atelier pour pratiquer moi-même ce métier. Mmh. Et effectivement, je ressens un peu tout ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire le plaisir de fabriquer quelque chose, le plaisir d'être dans son atelier, de s'extirper un peu du monde, d'être concentré sur son travail, de faire corps avec le tout. C'est vraiment une implication de tout le corps et de l'esprit parce qu'on se vide la tête totalement. À travailler avec les mains et le souffle ralenti, on s'apaise et effectivement, on s'extirpe un peu du stress ambiant.
Merci beaucoup.
Quand on pratique ça.
Merci beaucoup, voilà. Audrey, de nous avoir appelé. Pour terminer, que dire aux parents qui nous écoutent et qui seraient réticents à l'idée que leurs enfants deviennent boulangers, charpentiers, céramistes, Magali Peruccini?
De les laisser vivre leur vocation.
Arthur Lockman.
Je dirais que le monde est devenu tellement complexe que j'imagine mal qu'on puisse le comprendre sans faire des expériences très variées. Et passer par l'artisanat, c'est une bonne façon de s'ouvrir au monde.
Et je terminerai cette émission par cette belle phrase de la philosophe Simone Veil, que pour chacun, son propre travail soit objet de contemplation. Merci beaucoup Arthur Lockman, je recommande vraiment la lecture de La vie solide, la charpente comme éthique du fer, chez Payot, hein, vous êtes d'accord, Christine Lapelle.
Oh là que oui.
Et je recommande également l'ouvrage de Magali Peruccini, Nouveaux artisans, portrait d'une génération qui bouscule les codes. c'est publié chez Erol et ça donne vraiment envie de se reconvertir dans un métier manuel. Moi, je me reconvertirais volontiers en boulanger. Il y a un très beau chapitre avec le boulanger Christophe Vasseur, absolument formidable. Merci Rebecca Shankland et Christina Pelledouel de Psychologie Magazine ainsi que Marie-Laure Sunshine. J'aimerais vous signaler que la campagne Une jonquille pour Curie débute aujourd'hui. Depuis que je suis adolescent, je suis passionné par la radio et j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Aujourd'hui, pour que les patients puissent eux aussi avoir des projets de vie, soutenons la recherche contre le cancer. Vous pouvez faire un don de 5 euros à l'Institut Curie par SMS en envoyant espoir au 92 002, espoir au 92 002. Demain, comment faire quand vos enfants ou vos ados n'adhèrent plus vraiment à vos valeurs familiales, qu'il s'agisse de politique, de religion, de sexualité, de consommation? C'est l'occasion de se demander avec le quotidien La Croix jusqu'où exposer ses enfants à la différence. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000.